À quoi tu penses?
Restless. It's just music.
This will twist your head.
Oh, bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça?
Restless.
Bonjour à tous sur Restless, c'est le retour de Lux Stories. Il n'y avait pas d'émission le mois dernier, mais on repart pour ce mois d'avril avec ces deux heures de Lux Stories pour le mois donc d'avril sur Restless. Et on accueille Myriam et Daïra qui... Alors, il y a plein de choses à dire. Bonjour déjà.
Bonjour, bonjour Libé.
Bienvenue sur les ondes de Restless, web radio qui existe maintenant depuis 2 ans. Plutôt connoté dans le milieu du rock, voire du métal.
Bah, merci de m'accueillir, je suis ravi.
Il y a tellement de sujets, parce qu'on risque de parler forcément de Twitch, parce que c'est un sujet déjà moi qui m'intéresse de base. On en avait parlé dans l'émission de Lux Stories avec Léo déjà, mais là ça va être intéressant aussi d'en parler avec toi, qui t'es lancé dans l'aventure Twitch aussi.
Oui.
Mais bon, on va d'abord certainement... Bah, je vais te laisser te présenter un peu, peut-être ton parcours, ou en tout cas ce que tu souhaites raconter ou pas, parce que voilà, mais que les gens comprennent un petit peu qui parle, tout simplement. Donc, on parlera après de comment on s'est connu, parce que c'est assez intéressant, mais je vais te laisser te présenter déjà.
Eh bien alors, j'ai plein de casquettes, j'ai eu plusieurs vies, moi ça va faire 29 ans que je travaille dans la musique. J'ai commencé dans les studios d'enregistrement. Mon premier métier, c'est ingénieur du son. Donc, j'enregistre et je mixe des disques. J'ai monté mon studio en 2009 qui s'appelle Studio Diken, dans la région parisienne, donc un petit peu loin de Liège. Mais depuis le début des années 2000, j'ai fait aussi du développement de projets d'artistes émergents. Donc après avoir été ingénieur du son, j'ai aussi fait de la réalisation. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait de l'accompagnement de projets. J'ai aidé des artistes à se développer, notamment des groupes comme Diamond Fizz, Yom From Mars. Plus récemment, Elodie Kimmel, qui est dans une esthétique complètement différente. Et parallèlement à ça, je fais aussi de la formation. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, voilà. Et puis récemment, je me suis en effet lancée dans Twitch.
Yesterday I woke up soaking a lemon.
déjà pour préciser, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames avec le terme de réalisation et producteur dans la musique par les non-initiés, et c'est pas grave du tout, c'est souvent dû à un anglicisme. En gros, la réalisation, c'est ce qu'on appelle le produceur, donc... les grands producteurs connus, bah, y a notamment Dr. Dre pour ceux qui ont beaucoup suivi le rap et le hip-hop, mais il y en a beaucoup.
Rick Rubin.
Et Rick Rubin aussi. Bien sûr, qui lui a marqué autant le rap que le rock. Mais justement, je pense que c'est déjà un très bon sujet pour commencer cette première partie, parce que moi déjà ça me passionne, hein, c'est honnêtement un des métiers que j'y aspire, j'espère un jour peut-être faire un peu ça aussi, même si bah, voilà, j'ai un notre parcours peut-être moins technicien. Mais c'est quoi, en gros, producteur ou réalisateur ? Parce que voilà, en anglais, on dit producer, et en français, normalement, on dit réalisateur. Sauf que beaucoup de gens disent producteur, sauf que producteur, ça peut être très large. Maintenant qu'il y a le hip-hop ou le rap, on a tendance à dire que le beatmaker est un producteur, alors que des fois, il y a un producteur qui est le beatmaker et un réalisateur en plus. Donc toi, comment tu vois ce métier ?
Le métier de réalisateur, ou réalisatrice en l'occurrence.
Exactement.
En fait, pour moi, le réalisateur, pas que pour moi, un réalisateur, c'est comme dans le cinéma. Un réalisateur ou une réalisatrice, c'est la personne qui est en charge de l'unité artistique du projet. Le producteur, c'est vraiment la personne qui est en charge du financier. Et en mettant les deux en parallèle, en fait, un beatmaker, lui, il a plein de casquettes différentes. C'est que le beatmaker, il est à la fois producteur parce qu'il va investir du temps, voire de l'argent, pour financer un support de musique enregistrée. Il est souvent aussi le compositeur parce que c'est lui qui va écrire la ligne de basse, qui va écrire des harmonies, déterminer le tempo, il va être arrangeur, et puis surtout il va être réalisateur parce que artistiquement c'est lui qui va donner la patte artistique. Et dans mon travail de réalisation, moi je m'inscris surtout, alors je suis pas très beatmakeuse, mais surtout dans la direction artistique des projets, j'aide les artistes à chanter, je vais aider les musiciens, je vais diriger les musiciens, je vais aider les à structurer, à faire des montages, à trouver le bon enchaînement, couplet, refrain, solo, intro, pas solo, pas d'intro, quel type de renversement d'accord. Donc c'est à la fois de la musique et à la fois de la technique, et c'est quelque chose qui m'est venu un petit pas, je ne vais pas dire sur le tard, mais j'ai très envie de le faire dès le début, dès que j'ai commencé à travailler en studio. J'ai attendu d'avoir un petit peu plus de bouteilles et savoir un petit peu de quoi je parlais en termes de prise de son et de mix, parce que ça fait partie aussi des outils de réalisation. Un réalisateur son, c'est aussi quelqu'un qui va savoir comment faire une prise de son pour donner une perspective sonore, une mise en scène sonore. Donc voilà. Donc c'est un petit peu tout ça à la fois, la réalisation, et puis le producteur, ouais, c'est le financier, comme tu disais tout à l'heure.
Et c'est vrai que la partie donc réalisation, c'est un peu comme le travail de manager aussi, dans le sens où on dit qu'il y a une définition du travail de manager par type de manager, enfin par manager. C'est vrai que réalisateur, ça peut être très large aussi dans les activités. Il y en a qui vont amener un studio, un son, une manière d'enregistrer. Par exemple, Ititanita, moi je sais qu'avec John Agnello, il avait une manière spéciale d'enregistrer la grosse caisse à travers une guitare électrique désaccordée. Et ça, c'est les petites techniques qui rendent ce travail, je trouve, passionnant et qui est peut-être... c'est un mot un peu fort, mais négligé du grand public, alors que s'ils savaient tout simplement qui sont derrière les morceaux, ils comprendraient certaines logiques entre des tubes, même avec 10 ans d'écart. C'est vrai que moi, le mystère de ce métier, pour l'instant, c'est à quel point il faut savoir écouter de la musique. C'est vraiment ce truc-là de sensibilité, parce que ça paraît très concret ce qu'on dit, sauf qu'il y a certaines notions qui ne le sont peut-être pas tant.
Alors écouter de la musique, il y a plusieurs choses, parce que écouter de la musique et écouter le son, c'est pas exactement la même chose. Et comme je disais tout à l'heure, le son, le travail de particulièrement de mix, enfin moi quand je mixe, je conçois le son comme c'est une mise en scène sonore. C'est une mise en scène qui va venir servir un morceau qui a été écrit d'une certaine manière, il va y avoir différents types de personnages, un décor qui va donner une ambiance générale. Et tout le travail de réalisation, donc qui se concrétise, enfin où il y a plein d'étapes, hein, mais une des dernières étapes les plus connues, c'est l'étape du mixage. Mais c'est vrai qu'il y a toutes les étapes en amont, comme tu disais tout à l'heure, de recherche, de création sonore, enregistrer une grosse caisse, alors à travers une guitare, à travers en utilisant le micro d'un téléphone portable ou d'utiliser tout simplement l'acoustique d'une pièce particulière. Ça fait partie des outils de la réalisation. Et tout ça va dans une dans une forme de mise en scène concrète. Et moi, c'est ce que je trouve le plus passionnant, parce que ça permet de donner du signifiant à des choses qui ne le sont pas. Et écouter de la musique, c'est écouter à la fois, enfin en tout cas moi, dans ma manière d'écouter de la musique, je continue d'écouter des disques comme quand j'avais 14-15 ans et j'étais complètement naïve sur toute la manière de ce qui se passait derrière. Mais il y a aussi tout ce jeu qui nous permet de nous emmener, nous attirer l'oreille pour nous faire croire que la rythmique, elle tourne dans un sens, et puis en fait ce qui est important, c'est ce qui va se passer derrière et qui va exploser au moment du refrain ou du solo ou autre. Enfin, en tout cas, c'est toute une construction qui vient créer des surprises, et quand on écoute le morceau, ben, on se lâche jamais. Voilà, c'est un peu ce qui m'attire dans ce métier et dans ce que j'ai envie de transmettre dedans. Voilà.
Moi, j'ai donc été hébergé à Liège par un producteur aussi qui travaille donc en Belgique, sur des productions plutôt FM, on pourrait dire, et lui était passionné de la théorie musicale, lisait beaucoup de livres, ce que je découvrais un peu, parce que c'est vrai qu'on se dit pas forcément qu'un réalisateur studio doit lire, alors qu'au final j'ai compris que si, et que c'était extrêmement important. Je crois que c'est un bouquin qui est, en tout cas lui me disait qu'il était assez phare dans cette littérature-là, c'est bouquin du leader des Talking Heads, je crois, How to Make a Hit ou quelque chose comme ça. En tout cas, lui, il m'en avait pas mal parlé, et il me parlait aussi de recherche de neuropsychologue, et je me suis dit que ça allait être intéressant d'avoir ton avis sur ça. C'est par rapport aux oreilles, à comment fonctionne le cerveau par rapport au son et à la musique, et à la musicalité, à la mise en scène aussi, au fameux mix. Et il m'expliquait que le but, c'est de ne pas choquer l'oreille, donc du coup de rester dans des choses que l'oreille et le cerveau connaissent. Donc par exemple, on sait que les gammes occidentales sont différentes de certaines gammes orientales, sans rentrer dans les détails, et ça joue beaucoup, notamment sur notre réception de la musique. Et ce qui était important pour vraiment marquer la musique, c'est quand même de sortir des sentiers battus et de surprendre. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait pas mal réfléchir à quel point c'est conscientisé, en fait, dans le travail.
Alors, à quel point c'est conscientisé dans le travail, ça dépend, parce que quand j'étais assistante et assistante ingénieur du son et ingénieur du son, mais que je travaillais avec d'autres réalisateurs, je me suis rendu compte qu'il y avait... c'est comme partout, il y a des bons et des mauvais. Il y en a qui sont plus ou moins conscients de ce qu'ils font, d'autres qui le transpirent et qui travaillent de manière très intuitive, très instinctive, sans forcément avoir une conscientisation de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est vrai que l'âge venant et l'expérience faisant son œuvre, c'est vrai que je suis de plus en plus j'essaie de plus en plus réfléchir à ce que je suis en train de faire, tout en essayant de garder une certaine spontanéité, parce que c'est super important. Et dans ce que j'appelle la mise en scène sonore, dans la réalisation, il y a en effet le fait d'utiliser des choses qui sont très conscientes, enfin qui sont de l'ordre des modes, de l'ordre de ce qu'on étudiait tout à l'heure, hein, de nos habitudes culturelles. Quand on écoute de la musique en Occident, on a l'habitude de certains modes, on a l'habitude que certaines rythmiques vont être plus dansants que d'autres, certains tempos qui vont être plus entraînants que d'autres, et on va utiliser tout ça. Après, c'est vrai que de rajouter une dose de rupture, une dose d'imprévu, une dose d'accident, c'est ça qui va attirer l'oreille. Et alors, par moments, c'est fait de manière complètement consciente, et puis par moments, de manière totalement animale et intuitive. Il y a un truc qui semble bien, qu'on a fait à un moment... Enfin, je vais prendre un exemple. Un guitariste fait un solo de guitare, il a déjà sa grille d'accords, et puis on fait une prise, deux prises, trois prises. Bon, c'est bien, mais c'est pas très senti, il n'y a rien qui fait vibrer plus que ça. Et puis à la cinquième ou sixième prise, tout d'un coup, il se plante dans le doigté, il va faire un renversement, il va rajouter une harmonie qui n'est pas forcément prévue. Mais c'est ce petit accident-là qui fait que tout d'un coup, lui, ça l'a fait sortir de sa zone de confort et que dans son jeu, il y a quelque chose qui va de plus qui va ressortir. Et ça peut être généralement ce genre de choses qu'on va rechercher. Alors, ce n'est pas forcément de mettre les musiciens en danger, ce n'est pas forcément soi-même de se mettre en danger systématiquement, mais d'essayer de trouver l'équilibre entre le terrain connu et ce qui va permettre de sortir de l'ordinaire, tout simplement.
Et du coup, ça montre, moi c'est pour ça que je trouve ce métier passionnant, c'est qu'en fait, il y a un côté assez philosophique de la musique, je trouve, en tout cas c'est peut-être un des postes les plus philosophiques et psychologiques, puisque par exemple donner une couleur à un album, parce que c'est notamment ce qui est recherché en général quand on cherche un réalisateur, de donner une cohérence. Ça demande quand même de comprendre l'artiste.
Intacter ma tactique, les rendre sympathiques. Thermique issu de macro thermétique, c'est comme un toc toc, ça se répète comme un tic tic, trip hypnotique, grotte sombre cylindrique, je te détrousse, tu te trémousses sur de la housse, en starco tu fous la frousse, t'as la coupe à de la housse, moi c'est stup, toi c'est stop, vas-y coupe ta dope, je débouche des feuilles au test tube, je suis pas bis, je suis pas love, je suis pas choupa choups, je fais des tours de passe-passe, je cours pas devant un pouce-pouce, faut que tu le saches, je suis comme une poêle qui attache,
j'ai le flip pauvre tâche,
coup de hache de la SFH.
La musique ça déchire, c'est le stup roux.
Les morts vivants se lèvent quand le stup crève.
Grosse dédicace à tous les morts nés.
Chaque attaque te plaque, mec, si tu croyais que c'était mort, non, non.
La musique ça déchire, c'est le stup roux.
Les morts vivants se lèvent quand le stup crève.
Grosse dédicace à tous les morts nés.
Chaque attaque te plaque, mec, si tu croyais que c'était mort.
Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Je coupe ma côte à l'os, vas-y goûte là. Les mômes chialent de peur quand je débarque avec mes coutes là. Flippe là, t'as trop jacté. Tu t'éclipses là, tu rames pétrifié, t'as pas les clés car elles sont planquées là. C'est planté là, t'écoutes le son, c'est dans ton cerveau là. Tu calcules le beat, c'est comme ton cœur, tu l'entends battre là. Tu tripes là, la boucle flotte dans ton cerveau là. Écoute là, ta tronche est moche, vas-y floute là.
La musique ça déchire, c'est le stup roux.
Les morts vivants se lèvent quand le stup crève.
Grosse dédicace à tous les morts nés.
Chaque attaque te plaque, mec, si tu croyais que c'était mort, non, non.
La musique ça déchire, c'est le stup roux.
Les morts vivants se lèvent quand le stup crève.
Grosse dédicace à tous les morts nés.
Chaque attaque te plaque, mec, si tu croyais que c'était mort. Dans le crew, pas de sourire, on fait pas la fête, non. La feel good musique, j'en ai rien à foutre. Je te vois caler chocotte et les pipelettes caquettes. Les carottes sont cuites alors à quatre pattes cocotte. Vends le stup, tu zozotes, mais t'es toujours à l'écoute. Pourquoi le stup crie comme une mouette dans le mazou? Nous on est hyper sympa, super 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 cool. On est doux comme des petits chats, beaucoup plus sympa que les autres. Les autres, les autres, les autres.
Les morts vivants se lèvent quand le stup crève.
Grosse dédicace à tous les morts nés.
Chaque attaque te plaque, mec, si tu croyais que c'était mort, non, non.
La musique ça déchire, c'est le stup roux.
Les morts vivants se lèvent quand le stup crève.
Grosse dédicace à tous les morts nés.
Chaque attaque te plaque, mec, si tu croyais que c'était mort, non.
Je ris comme un fou quand tu cries pour le crew. Ça te casse comme la crew dans le chrome, je fais des trous. Ta mâchoire se décroche quand tu hoches la caboche mioche. Rate pas le coche, pauvre tâche, on te lynche.
Il y a beaucoup ce mythe quand même de personnes qui ne sont pas dans le milieu, on va dire. C'est de penser que, par exemple, quand on signe avec une major, même si je suis le premier à les critiquer, mais je rattrape, enfin, j'essaie d'expliquer aux gens que non, ce n'est pas des gens qui vont prendre un projet et t'as une personne qui va en fait diriger tout ce qui va se passer.
Non, c'est tout un travail d'équipe derrière.
Et du coup, le réalisateur ou le producteur a un rôle très important. Moi, j'ai pas été confronté directement à ça, mais du coup, bah toi, peut-être un peu plus, vu que bah t'as notamment travaillé sur des projets en maison de disques. Mmh. Et ces personnages de réalisateurs sont assez intrigants, et après on essaiera de passer à un autre sujet, parce que je suis capable, moi, de poser des questions pendant deux heures sur ce truc-là.
Moi, je peux en parler pendant trois jours, hein, donc il n'y a pas de problème.
C'est un peu l'intérêt d'ailleurs de ce podcast, c'est de montrer à quel point c'est normal, hein, je suis biaisé vu que je suis passionné par ça et j'en ai fait mon travail, mais je trouve ce milieu passionnant de personnages, de profils qui sont recherchés. Et les réalisateurs, justement, font partie de ceux qui m'intriguent le plus, parce que bah, y en a qui sont artistes, donc qui sont connus. Je sais qu'en France, on peut citer Yodelis.
Ouais, Mathieu Chédid, M, qui réalise aussi.
Et c'est des gens qui sont connus du public et du coup, importants aussi dans la réalisation. Mais en France, notamment, on peut citer Renaud Letang, c'est ça ?
Le Tang.
Le Tang. L'Étang. Ouais, je sais jamais comment on prononce son nom, mais lui qui a réalisé des grands succès, notamment un des albums de La Mano Negra, si je me trompe pas.
Alors pas de La Mano Negra, c'était les deux premiers albums de.
Ah non, Manu Chao.
Manu Chao, ouais. Ben, je le connais, enfin, se connaît depuis un très très longtemps, parce que moi, quand j'ai été assistante avec lui, j'ai été ingénieur du son avec un album qu'il avait réalisé. Enfin, on a travaillé plusieurs fois, à plusieurs reprises ensemble, donc je sais un peu comment il travaille. Et c'est vrai que c'est quelqu'un vraiment de l'ombre, voilà. Donc c'est tout l'inverse d'un. Je vais pas dire c'est tout l'inverse, c'est pas vrai, mais on a tous nos manières de réaliser différentes. En fait, il y a autant de, comme tu disais tout à l'heure, il y a autant de réalisateurs qu'il va y avoir de couples manager, artiste et manager, parce que c'est un travail de couple, le management.
Oui, oui.
Mais il y a à la fois, c'est la rencontre d'une personnalité artistique. Le réalisateur, c'est une personnalité artistique avec un artiste qui a un propos à délivrer. Parfois, il y a des collaborations qui se font au long cours. On peut citer dans les grands exemples historiques George Martin et les Beatles. On va citer Nigel Godrich et Radiohead, par exemple. Ça, c'est des collaborations au long cours. Et puis, il peut y avoir, puisque tu citais Yodelis, Yodelis, il a réalisé les derniers albums de Johnny Hallyday. Et Johnny Hallyday, pendant toute sa très longue carrière, il a eu un réalisateur différent quasiment par album. C'est assez rare les réalisateurs qui ont réalisé plusieurs albums avec Johnny Hallyday.
Et c'était son choix ?
C'était son choix, je ne veux pas parler à la place des morts. je crois que c'était un choix. Alors c'était un choix aussi qui était conjoint avec la maison de disques. Parce qu'à une époque où il était notamment chez Universal, parce que moi j'avais travaillé sur un album de Johnny il y a très longtemps, à l'époque où il était encore chez Universal... À l'époque, le choix, c'était surtout les gens qui lui écrivaient des chansons, enfin, avec qui il avait choisi de collaborer sur un moment précis, à un instant T de sa carrière. Et comme à cette époque-là, il faisait des albums très régulièrement pour qu'il y ait de la nouveauté, pour que la couleur, enfin, voilà, il fallait aller se mettre dans les chaussons de Johnny pour écrire des chansons pour Johnny et le réaliser pour Johnny. Mais ça pouvait être aussi bien. Pardon, il y a eu Michel Berger qui s'est risqué à l'exercice deux fois, si je ne m'abuse. Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo, David Hallyday, son fils, Yodelis plus récemment. Je crois que Mathieu, j'ai dit, a réalisé un album à vérifier, je crois, pour Johnny. Évidemment des Américains, parce qu'il allait chercher aussi des réalisateurs américains. Donc il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup et c'était, je crois, un choix conjoint de la maison de disques et de l'artiste. Et donc, tout dépend de ce qu'on a envie de raconter. Et de la même manière que pour un film, quand vous avez la série des Star Wars, les premiers sont faits par George Lucas et après, il y a eu J.J. Abrams. Mais on peut très bien imaginer qu'il y ait plein de réalisateurs qui se risquent à l'exercice. Le réalisateur de disque, c'est comme le réalisateur de film. Il va diriger les comédiens, il va choisir le montage, il va choisir la couleur globale, il va choisir d'avoir par moment des titres qui vont s'étaler plus sur la longueur, d'autres qui vont être plus denses, plus resserrés sur l'ordre des morceaux. Le fait de faire un album 15 titres ou un 11 titres avec 4 inédits ou le fait d'avoir une piste cachée, pas une piste cachée. Voilà, c'est tout ça qui ressort. Enfin, c'est tout le travail du réalisateur circonscrit un petit peu tout ça.
C'est super bien expliqué. C'est marrant cette analogie du réalisateur de cinéma. Moi, j'y avais jamais pensé. Et au final, Par exemple, on peut en parler aussi, donc au moment où je t'ai eu en cours et donc on s'est rencontrés, c'était il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, c'était un sujet que je connaissais un peu, mais j'avais été pas du tout autant confronté au studio à l'époque. Et c'est vrai que j'avais jamais eu cette vision, mais ça marche vraiment bien pour l'expliquer aux gens quand c'est abstrait, parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple de faire comprendre à quelqu'un qui n'a jamais été confronté directement à la création de musique, ce qu'est être réalisateur, parce que ça implique tellement de choses pour qu'il y ait une cohérence.
Mais en même temps, le rôle du réalisateur, parfois, sur certains projets, avec certains artistes, c'est juste essayer de faire sortir la juste émotion de l'artiste. Tout est déjà fait, enfin tout est déjà dans l'écriture de l'auteur, compositeur, interprète, et quand c'est un groupe, de l'expression du groupe, c'est de choisir la bonne prise au milieu de 3 ou 4, et puis c'est tout. Par moments, c'est tout un travail de construction de fourmis qui peut être très très long, qui va nécessiter pas mal d'effets spéciaux, pas mal de montage, pas mal de choix, d'une réflexion sur l'arrangement, une recherche sur des partenaires. Quand je dis partenaires, c'est pas des partenaires financiers, mais de trouver le bon interprète de tel instrument un peu particulier qui va mettre en exergue la création. Et puis par moments, c'est juste... Je reviens sur l'histoire de Rick Rubin. Hein. Quand il a choisi de faire la reprise de Hurt ou de Personal Jesus avec Johnny Cash, c'est guitare-voix dans le salon de Johnny Cash, et c'est dépouillé à l'extrême pour que justement il n'y ait que l'émotion et l'intention de l'artiste. Et puis c'est tout. Voilà, c'était ça, sa réalisation. Et pourtant, c'est le même Rick Rubin qui a réalisé des titres pour Eminem, pour Run DMC, pour Aerosmith, pour Gossip. J'en passe, et des meilleurs. Donc, c'est parfois faire l'abstraction de tout ce qu'on sait pour aller vers l'épure, parce que c'est ce dont on a besoin à un moment précis ou sur un projet précis.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Please don't go, 'cause you made me feel.
J'ai quand même l'impression que c'est un métier pour les gens extrêmement sensibles. Parce que...
Ah oui.
Enfin... Bah après, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que moi je suis, bah honnêtement, quand je me projette à 5-10 ans, je ne me vois que à être beaucoup plus dans un studio qui est de plus en plus le mien et où j'invite des gens. Parce que, bah ouais, c'est passionnant de réfléchir et d'avoir cette liberté de créer des choses en mélangeant des mondes, d'être coordinateur.
Au-delà de la réflexion, parce que... Excuse-moi, mais tout à l'heure, tu parlais de la réflexion et de l'intellectualisation du processus de réalisation. Évidemment, avec le temps, ça vient, hein, mais on est surtout sur du ressenti. Sentir ce que veut l'artiste, sentir ce qu'il veut exprimer, ou sentir que c'est le moment sentir comment lui parler pour diriger une séance de voix, ou diriger une séance de cordes, ou une séance de guitare, ou autre. C'est évidemment, il faut être sensible. Quelqu'un qui est complètement frigide des sentiments et du ressenti vis-à-vis des autres ne peut pas être réalisateur. C'est pas juste appuyer sur des boutons, dire oui, ça me plaît, non, ça me plaît pas. Quoi. Ça marche pas.
Ouais, comme le cliché qu'on voit d'ailleurs dans les séries et les films. Ça...
Ah, c'est ça. Ouais. Non, on n'est pas du tout dans le cliché. Un réalisateur, c'est quelqu'un qui a des capteurs partout. Et qui doit en même temps que tout ressentir, qui doit avoir le réalisateur idéal, il a une prise de recul sur ce qui se passe pour pouvoir emmener dans la vision artistique qu'il a depuis le début du projet.
Le premier, au final, ça vient de pop dans ma tête, mais le premier rapport que j'ai eu sans m'en rendre compte avec ce travail-là, c'est François Pérusse qui avait fait des sketchs sur le solo de Jimmy Page, qui est très très drôle. Et au final, en fait, c'est pas si loin de la réalité dans certains cas. Mais la dernière question sur ce sujet-là, c'est les changements qui ont déjà lieu et à venir. Parce que déjà, il y a un gros changement dans la production de musique qui s'est passé ces 10-15 dernières années avec l'arrivée des home studios et la possibilité de produire des choses beaucoup plus facilement et avec beaucoup moins de budget. Mmh. Du coup, forcément, ça a changé la manière de réaliser aussi des albums dans le rap et le hip-hop principalement. Mais j'ai l'impression que c'est en train de toucher tous les autres styles de plus en plus.
Ouais.
Cette notion de production peut-être nouvelle, parce que, comme je le disais, donc John Agnello, je reprends cet exemple de la guitare qu'il a désaccordée pour mettre entre le micro et la grosse caisse pour rajouter une petite fréquence en plus. Bah ça, c'est pas possible avec juste un ordinateur et ses contrôleurs MIDI. Mais par contre, on voit qu'il y a le sound design qui a pris une évolution assez dingue. Enfin, moi, je sais que j'écoute beaucoup de musique électronique et d'électro, de rap, de trap, tout ça, de grime. Et le sound design est de plus en plus incroyable quand tu écoutes sur autre chose que les enceintes de ton ordinateur. c'est assez impressionnant et j'ai l'impression que ça, c'est assez nouveau quand même. Parce qu'avant, il y avait les contraintes analogiques.
Alors, c'est nouveau, oui et non. Ça fait une vingtaine d'années que le home studio est entré dans nos vies, donc un peu plus que... Voilà, ça fait vraiment 20 ans. Et le sound design a toujours existé parce que quand on écoute des albums assez un peu psychés du type les albums de Soft Machine dans les années 70, ils mettaient les bandes à l'envers, dans les Pink Floyd aussi, il y a vachement de travail comme ça d'utilisation de sons, enfin ne serait-ce que l'introduction pour citer que Pink Floyd hein, dans Dark Side of the Moon, l'introduction de Money, c'est des samples de réveil qui sont mis, qui ont été placés, alors le tout sans sampleur électronique tel qu'on les a aujourd'hui hein, donc c'est des bouts de bande qu'ils ont coupé, collé. Enfin, il y a tout un travail de sound design qui est venu se juxtaposer là-dessus. Et donc, c'est pas complètement nouveau, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facilement accessible depuis une vingtaine d'années, depuis que les ordinateurs sont rentrés dans nos vies à tous les sens, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, à tous les sens du terme. Les ordinateurs sont rentrés dans notre vie, dans la consommation de musique, mais aussi dans la production musicale. Alors, oui, ça a changé. Ça a changé la manière d'entrevoir notamment le hip-hop, mais pas que. En effet, t'as complètement raison. Pour tous les autres styles de musique aussi. Et moi, je le vois pas comme un concurrent exclusivement. Alors évidemment, je l'ai vu comme un concurrent du studio au tout début quand c'est arrivé. Mais c'est un outil complémentaire. C'est-à-dire qu'en tant que réal, je vois bien que il y a des choses que je peux faire chez moi. Il y a des choses que je peux faire en studio. Et puis, il y a des choses que les artistes peuvent faire chez eux et me fournir des fichiers que moi, j'aurais jamais osé enregistrer comme ça. Et ça donne une couleur, ça donne déjà une ambiance particulière qu'on peut utiliser. Et l'avantage du home studio, c'est que ça a permis de donner un outil à des gens qui pouvaient avoir du talent, mais qui n'avaient pas les moyens d'avoir un outil à leur disposition pour s'exprimer. Donc aujourd'hui, ça touche un plus grand nombre. Il y a de plus en plus de titres qui sont mis en ligne, ce qui ne veut pas dire, alors ça, on va vers une, ça tend vers aussi vers une déprofessionnalisation des métiers de producteur, artiste, auteur, compositeur. Comme je disais, c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. Il y a de plus en plus de quantité, mais il y a aussi de très grandes choses qualitatives, et puis il y a aussi des choses qui sont enfin, je ne veux pas dire inaudibles, mais qui sont difficilement... Il faut qu'on puisse comparer ce qui est comparable. Il y a de plus en plus de personnes aussi qui pensent qu'ayant un ordinateur et un logiciel pour faire de la musique chez eux, ils s'autoproclament artistes, s'autoproclament réalisateurs. Il y a un petit peu de travail avant d'en arriver là, quoi. Mais voilà, ça demande de l'humilité, mais c'est surtout un outil complémentaire qui est génial. Et qui a pas fini dont on n'a pas fini d'apprendre à se servir.
Ah non, bah là, de toute façon, il y a tout l'enjeu de l'intelligence artificielle qui va se mélanger aux plugins et aux instruments MIDI. Là, Aphex Twin a lancé un nouveau plugin, si j'ai bien compris, c'est un harmoniseur, mais un truc assez pointu pour justement très facilement créer les gammes beaucoup utilisées actuellement en Occident. Mais de toute façon, ça, c'est l'intelligence artificielle notamment va forcément encore plus augmenter la démocratisation. Mais l'autre changement que là, pour le coup, c'est de la pure prospection, puisqu'on est encore en plein dedans, c'est par rapport au confinement. Moi, il y avait quand même une impression globale dans la société, bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais de repli sur soi, mais que je voyais aussi dans le milieu musical quand même un petit peu, ou en tout cas des styles qui se mélangent de moins en moins, des événements qui deviennent de plus en plus spécialisés et donc qui se mélangent de moins en moins. Avant, un festival, il y avait tous les styles de musique. Maintenant, il y a des festivals hip-hop, il y a des festivals de métal, il y a toujours des festivals éclectiques, mais au final, on sent quand même que c'est moins la norme, de moins en moins. Et est-ce que ce confinement va pas... lancer une sorte de période justement de collaboration très ouverte, notamment dans la production, dans la réalisation. Peut-être qu'on va voir des collaborations d'artistes beaucoup plus improbables qu'avant, notamment parce qu'il y a des réalisateurs derrière qui ont peut-être envie de plus prendre des risques. C'est un peu lunaire, un peu abstrait comme question, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y avait un repli artistique quand même qui se passait, avec notamment l'arrivée du hip-hop et du rap qui au début a été très mal reçu comme le rock à l'époque, et maintenant c'est devenu le style prédominant de l'industrie, mais sauf qu'on voit pas de nouveaux styles arriver. À chaque fois ce cycle, il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait, et là j'ai l'impression qu'on arrive à un moment où ça va plutôt être le mélange des styles, la suite, plutôt qu'un nouveau style qui va encore chambouler les choses.
Alors dans ta question, il y a plusieurs questions dans la question, en fait. Mais moi, je pense que... Enfin, déjà, qui je suis pour donner mon avis, pas grand-chose. Mais puisque je peux donner mon avis, je le fais avec grand plaisir. Mais ça n'implique que moi. Je pense que cette histoire de confinement, ça force tout le monde à l'introspection à un moment ou à un autre, de manière violente, de manière parfois plus sereine. Et forcément, il va en sortir quelque chose, de bon ou de mauvais, je ne sais pas. Sur les festivals, pour l'instant, on a surtout des festivals très silencieux, avec beaucoup d'annulations. On verra ce qui va se passer. Et je pense... Bon, alors, c'est mon sentiment, mais même chose, qui suis-je pour le donner, hein.
C'est pour ça qu'on est là.
Hein. Ah ouais, c'est pour ça qu'on est là. Mais c'est qu'au moment où on va rouvrir à nouveau les portes des événements festifs, à un moment où on va rouvrir les portes de lieux publics, au moment où on va commencer à sortir, j'ose espérer qu'on va commencer à sortir un jour, hein, de cette pandémie, on aura tous notre regard à tous aura changé. Et comme notre regard à tous aura changé, je pense qu'il va y avoir peut-être aussi plus, une plus grande, un peu comme il y a eu il y a une centaine d'années dans les années folles après la Première Guerre mondiale, une espèce de boulimie de vouloir voir tout, de tout et de n'importe quoi, enfin de se plonger dans la fête à tout prix. Donc ça, c'est mon premier sentiment. Mon autre sentiment, c'est que de toute façon, au moment où on va rouvrir les festivals, on va rouvrir les salles de concert, il va y avoir un sacré embouteillage. Deux personnes qui ont préparé leur spectacle depuis déjà au moins un an et demi et qui n'ont pas pu les montrer, plus tous ceux qui attendent dans l'ombre de montrer les leurs, qui n'avaient pas forcément prévu de sortir, enfin tous les disques qui avaient prévu de sortir en courant 2020 puis 2021, qui se reportent petit à petit faute d'avoir un public pour pouvoir venir les voir en concert ou soutenir les sorties d'albums. Bah, là pour l'instant tous les festivals qui ont annulé pour cette année 2021 se sont reportés sur 2022 en ayant déjà reporté leur programmation de 2020. Donc il va y avoir un vrai embouteillage et ça va être très très difficile pour tous les artistes de pouvoir s'exprimer et de rencontrer leur public à leur juste valeur, hein, de toute façon ça c'est sûr. Mais une fois passé cette étape là, je pense que de toute façon on aura tous une consommation de la musique qui va avoir complètement changé. Le live stream et vraiment a commencé vraiment à rentrer dans les mœurs. Alors pas le live stream au modèle de printemps 2020 où tous les musiciens se mettaient avec leur guitare au milieu de leur salon pour faire un live sur Facebook. Moi c'est l'une des raisons pour laquelle je suis allée sur Twitch, parce que j'ai voulu découvrir ce qui s'y passait. Et puis j'ai découvert qu'il y avait plein de musiciens qui jouent en live tous les soirs ou presque devant 100 personnes depuis leur chambre, depuis leur salon. Et qui le font avec des gens qui viennent les voir régulièrement et qui ont plaisir à les écouter. Alors c'est pas forcément un répertoire novateur tous les soirs, mais il y a des reprises, il y a des nouvelles chansons, il y a plein de choses, et c'est une autre manière de faire de la musique. Voilà, c'est une autre manière de vivre la musique. Donc je pense que je suis relativement optimiste. Je me dis qu'en fait cette crise là comme dans toutes les crises, l'histoire de la musique a existé avant l'espèce humaine. Enfin, avec l'apparition de l'espèce humaine, la musique a accompagné l'espèce humaine dans toutes ses évolutions. Et l'accident qui vient de se passer, qui est la pandémie du Covid-19, un peu partout dans le monde, fait partie de ces accidents de la vie dans l'histoire de l'humanité. Et la musique va s'en remettre. Est-ce que l'industrie des festivals va s'en remettre? C'est une autre histoire. Mais la musique va continuer de survivre et les humains vont continuer d'écouter de la musique, mais certainement différemment.
Oui, bah c'est un super résumé pour clôturer cette partie sur la production. J'avoue que c'est ce que je me dis aussi. Effectivement, hein, on rappelle que c'est juste notre avis personnel, ça n'engage à rien. C'est de la discussion pour justement. Je trouve ça important en fait qu'on s'exprime, que tu t'exprimes sur ces sujets-là, parce que qui d'autre peut le faire que des personnes qui sont confrontées à ça? Enfin, tu te dis pas légitime, mais au final, on l'est tous à partir du moment où c'est notre vie. Quand même, principalement, la musique, ce genre de choses.
C'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne sur Twitch, parce que tu me tendais la perche tout à l'heure. C'est qu'au départ, je suis allée écouter des musiciens, j'ai voulu découvrir, grâce à toi, notamment ce qui se passait sur Twitch, ce que je connaissais pas du tout. Et en découvrant qu'il y avait des beatmakers qui font leur beat en direct sur Twitch, en découvrant des musiciens qui jouent en direct, bon, il y a des gamers, ça c'est sûr, hein, sur Twitch, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gamers, mais sur la musique, je me suis dit, c'est un terrain qui est presque, je ne vais pas dire vierge, mais où il y a plein de choses à faire, c'est un outil qui permet de faire plein de choses. Et c'est comme ça que, du fait de faire de la formation et puis d'avoir envie de donner mon avis, ou plutôt de réfléchir tout haut, pendant cette crise où on est enfermé et on ne peut pas se voir, c'est un moyen pour moi de réfléchir à voix haute sur la manière dont évoluent nos métiers. Et puis j'ai des gens qui viennent, alors parfois c'est toi, parfois c'est d'autres personnes, j'ai pas forcément toujours beaucoup de viewers, mais en tout cas ça permet de se poser des questions en commun et puis en se demandant comment ça va évoluer, en essayant de suivre l'actualité, de savoir pourquoi les festivals sont reportés, qu'est-ce qui est important dans le fait, fondamentalement, au-delà de l'événement des festivals annulés ou reportés, c'est que derrière, il y a toute une économie aussi qui marche que sur une jambe, parce que, comme on le disait tout à l'heure, hein, l'économie du disque a besoin d'économie du spectacle pour pouvoir... l'un se nourrit de l'autre et l'autre se nourrit de l'un pour des histoires de promotion commune, par exemple, et puis parce que les musiciens ont comme double source de revenus à la fois les revenus qui viennent de la musique enregistrée, mais aussi ce qui vient des spectacles. Et là, on voit qu'il y a une paupérisation des artistes, une paupérisation des musiciens qui est grandissante du fait de l'annulation des spectacles. Et faire des live streams ou vendre du disque, ça ne suffit pas.
Ah non, l'économie est encore à inventer, c'est clair. Après, moi, j'ai un avis peut-être un peu trop marxiste, mais je pense que c'est effectivement pas qu'un mal... pas forcément pour les musiciens, c'est des catastrophes personnelles et il y a beaucoup trop d'exemples déjà au bout d'un an, mais plutôt c'est pour l'industrie que je vais pas pleurer. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été jolis dans l'industrie, mais aussi l'inverse, des gens qui ont profité de l'opacité du milieu pour tirer leur épingle du jeu et ce genre de choses. Et donc, je suis plutôt pour une sorte de retour à la sobriété. J'ai beaucoup de mal avec l'idée de faire un album avec des millions de budget. Je pense que ça ne sert à rien. Enfin si, ça sert à générer encore plus de millions, mais c'est tout. Et donc pour moi, ça ne sert pas grand-chose.
Non, mais ça peut servir aussi à faire vivre toute une économie derrière, parce que c'est vrai que l'économie de la musique, il y a plusieurs échelles. Un album avec plusieurs millions d'euros, plusieurs millions de dollars, ça peut paraître complètement disproportionné, mais derrière, ça va faire vivre des studios, des ingénieurs du son, un réalisateur ou plusieurs, des musiciens, des distributeurs, toute une équipe de travail. Et puis, à contrario, un album fait avec 10 000 euros, ça ne va pas faire vivre de la même manière le même nombre de personnes. Mais je pense que les deux peuvent cohabiter parce qu'il y a du public pour les deux. J'essaie pas de faire de donner un avis très consensuel, mais les deux peuvent cohabiter. Il y a du bon, il peut y avoir de très bons albums faits avec des millions et des millions, et puis de très mauvais albums faits avec des millions aussi. Et puis ça, enfin, politiquement, ça dit pas non plus la même chose. Mais ne travailler qu'avec des économies de bout de ficelle, c'est pas forcément non plus très très sain pour les gens qui sont derrière, parce que ça sous-entend que les gens ont du mal à finir leur fin de mois. On travaille pour avoir travaillé dans les deux circonstances, dans les deux types de circonstances. J'avoue que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir parfois à travailler avec des albums avec des tout petits budgets. Et puis on prend aussi du plaisir à travailler avec des budgets très confortables, parce que ça permet justement de se poser d'autres questions et puis d'essayer des choses qu'on n'aurait pas essayées parce qu'on est pris par le temps, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que on n'a pas suffisamment de temps, parce qu'on va pas dans le bon studio, parce qu'on n'a pas le bon matériel ou autre. Voilà, c'était juste pour tempérer un petit peu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui la crise du Covid, à mon sens, elle a ça de positif, s'il faut essayer de positiver les choses, elle a ça de positif qu'elle va forcer tout le monde à revoir son modèle économique et revoir son mode de pensée. Voilà, on va refaire une petite mise à jour de l'OS industrie musicale, je pense.
Oui, c'est ça. En fait, je suis totalement d'accord avec toi, hein, et tu as bien fait de tempérer un peu. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que bien sûr, c'est important, une sécurité financière et d'être considéré comme des gens qui travaillent. Mais par contre, j'ai quand même besoin, je ressens moi personnellement le besoin, peut-être que ça changera dans 5 ans, mais j'essaie d'expliquer aux gens et de vulgariser un peu notre milieu et quand même de rappeler que 70% des productions musicales sont faites par des entreprises qui font ça pour faire de l'argent et pas pour faire forcément vivre des gens, pour faire de l'argent et des bénéfices. Donc c'est encore autre chose, et c'est sur ça, j'espère que ça va s'arrêter. Mais ça, c'est mon utopie marxiste, comme je disais, et on verra.
Mais de la même manière que quand on va au supermarché ou quand on va acheter des produits chez un producteur local, on a une implication citoyenne et civique. C'est la même chose. Donc, on choisit par le biais de ce qu'on écoute et de ce qu'on consomme à tous les niveaux. On choisit le monde dans lequel on vit.
Et c'est pour ça que c'est important qu'on en parle et justement qu'on se sente légitime de juste en parler, parce qu'encore une fois, c'est juste notre avis.
Tout à fait.
Et il n'y a pas de vérité. On va se faire une pause, hein, parce que du coup, je pense qu'on arrive déjà à la fin de la première heure sur ce sujet.
Oui.
Mais c'est super passionnant et je suis content vraiment de pouvoir aborder sous cet angle cette problématique, parce que pour l'instant, dans les invités qu'on a eus, on n'a pas eu de producteurs-productrices, ou en tout cas de personnes qui ont un aspect plus technique et d'accompagnement, même si on a eu des gens qui étaient artistes et managers, bookers, tout ça. Mais donc, c'est la fin de la première heure, donc on revient dans 15 jours pour la deuxième heure. Nous, on continue de parler, hein, vous vous doutez bien qu'on fait ça d'une traite, mais on se retrouve sur Restless d'ici 15 jours. On a vite fait parler Twitch, n'oubliez pas, Restless aussi, et sur Twitch. Et c'est le vendredi dès 20h, vous pouvez retrouver Pierre et Ben faire des shows sur Twitch, hein, parce que sur Twitch, justement, ce qui est important, c'est de pas forcément tout planifier. Et donc, des fois, ça va être des blind tests, des fois, il y a des guests, des fois, ça va être des jeux. Et des fois, d'ailleurs, vous m'y verrez aussi. Merci pour cette première heure et on se retrouve d'ici 15 jours. Restez sur Restless.
quoi tu penses?
It's just music.
This will twist your head.
Oh, ben dis donc, qu'est-ce que c'est que ça?
Restless!
Restless!
Restless!